Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 20h avec dans un instant, bien sûr, le journal. Et juste après, on ouvrira ensemble, comme tous les soirs, le débat du Club des idées. Et ce soir, comment enseigner la liberté d'expression face à des élèves et à des parents, parfois de plus en plus radicaux. On en débattra avec nos invités à partir de 19h20. Juste avant, ce sera la carte blanche du Club des idées avec ce soir l'écrivain Philippe Besson. Mais d'abord donc, le point sur l'info avec vous, Christophe Lamarre. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
C'est un martyr de la liberté. Pour caricature, pour une photo, on décapite quelqu'un. Mais on est où? C'est pas l'islam, c'est pas la religion.
L'hommage des imams aux professeurs assassinés, leur colère devant la barbarie. Ils sont venus se recueillir devant le collège de Samuel Paty.
L'enquête progresse, on commence à y voir un peu plus clair dans l'enchaînement qui a conduit au drame.
Assez de paroles, des actes demandaient une partie de l'opposition. Ce matin sur notre antenne, le ministre de l'Intérieur a réclamé la dissolution de deux organisations musulmanes, dont le CCIF jugé trop proche de l'islam politique.
L'État et surtout l'éducation nationale, montré du doigt par les professeurs qui dénoncent son absence de soutien. Les proviseurs d'établissements ont justement rencontré aujourd'hui leur ministre Jean-Michel Blanquer.
La campagne pour la présidentielle aux États-Unis. Le 3 novembre, l'Amérique aura un nouveau président, Donald Trump ou Joe Biden. L'œil de notre correspondant Xavier Yvon dans ce journal.
Et l'œil d'Anissa Haddadi pour la météo. C'est tout de suite, Anissa, une journée qui sera plus agitée hein, demain.
Oui, à cause de Barbara. Barbara, c'est une tempête qui nous arrive tout droit
joli
du
nom.
Portugal. Joli nom, mais elle va souffler très fort demain dans le sud-ouest avec un épisode de pluie cévenole. Beaucoup de nuages sur l'ensemble du pays. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Trois jours après l'attentat contre le professeur Samuel Paty, l'émotion ne retombe pas à Conflans-Sainte-Honorine.
Oui, après les fleurs déposées par des élèves du collège et parfois accompagnées de leurs parents, la communauté musulmane a tenu à réagir aujourd'hui et à marquer son soutien, comme sa désapprobation, bien sûr, vis-à-vis de cet acte terroriste abominable. Une dizaine d'imams de la région parisienne se sont rendus devant l'établissement où Samuel Paty enseignait. Un geste fort, Hélène Terzian, vous êtes notre envoyée spéciale sur place.
Effectivement, une dizaine d'imams, celui d'Épinay, un imam du 15e arrondissement de Paris, sont tous venus déposer des bouquets de roses blanches qui se sont ajoutés à l'amas de fleurs qui s'accumulent désormais sur le parvis du collège. Un hommage à Samuel Paty qui s'est achevé par une prière de quelques minutes. L'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi, est à l'initiative de ce rassemblement.
C'est un martyr de la liberté. C'est un martyr. Il a enseigné la tolérance. Il a respect de l'autre. Pour caricature, pour une photo, on décapite quelqu'un. Mais on est où? C'est pas l'islam, c'est pas la religion, c'est l'islamisme, c'est le poison de l'islam.
Et pour le combattre, l'imam de Drancy va justement dans le sens de la volonté de fermeté annoncée par le gouvernement. Il appelle aussi à un sursaut de la communauté musulmane. Aïcha est la maman d'un élève scolarisé dans le collège de Samuel Paty. De confession musulmane, elle salue l'initiative des imams aujourd'hui.
Ils ont raison, ils ont bien fait de venir ici. On prie, je vais prier avec eux s'il le faut. L'islam est une religion de paix. On ne peut pas tuer au nom de la religion, ce n'est pas possible. C'est horrible. Ce qui s'est passé, c'est horrible. Nous, musulmans, on ne cautionne pas cet acte.
Et les imams présents aujourd'hui appellent les recteurs des mosquées, tous les autres imams ainsi que les responsables associatifs à agir avant que d'autres actes barbares ne soient commis.
Hélène Terzian, en direct de Conflans-Sainte-Honorine, un hommage national sera rendu mercredi après-midi à la Sorbonne, cérémonie qu'Europe 1 vous fera vivre au cours d'une édition spéciale mercredi.
L'enquête, quant à elle, progresse lentement pour déterminer ce qui a poussé le terroriste à passer à l'acte.
Il a été abattu par les forces de l'ordre après avoir décapité le professeur. 15 personnes, dont 4 collégiens, sont en garde à vue ce soir. Il s'agit de comprendre ce qui a poussé le meurtrier à accomplir son geste, mais aussi s'il a pu bénéficier de complicité, Justin Morin.
Oui, effectivement, les enquêteurs cherchent à retracer les contacts qu'il a eus avant de passer à l'acte. C'est le cas, par exemple, d'une des personnes placées en garde à vue aujourd'hui, déjà condamnée pour des faits de terrorisme. Cette personne a déclaré spontanément avoir été en lien avec le tueur, mais on ne sait pas encore quelle influence elle a pu avoir. L'objectif, c'est aussi de savoir si l'acte était prémédité, si oui, depuis quand. Ses proches, également entendus par les enquêteurs, ont évoqué l'obsession du terroriste pour les vidéos du parent d'élève concernant le cours de Samuel Paty. Idem pour celle du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui, qui appelait à se mobiliser contre l'enseignant. Le tueur a même contacté le parent d'élève sans que l'on sache encore ce qu'ils se sont dit. Enfin, l'autre question, c'est celle d'une éventuelle aide financière. Ce qui est sûr, c'est que le tueur est arrivé devant le collège quelques heures avant l'attaque et qu'il a donné de l'argent à des adolescents, au moins 300 euros, pour qu'il aide à identifier Samuel Paty. Sur cette séquence, 4 collégiens sont ce soir toujours en garde à vue.
Merci Justin Morin.
Et c'est l'une des premières mesures que veut prendre le gouvernement, dissoudre les groupes, les associations qui prônent ou défendent un islam radical, voire extrémiste.
Invité sur notre antenne ce matin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en a ciblé 2, Baraka City et le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France. Son directeur, Jawad Bacha, réagit vivement à cette menace.
C'est très choquant parce qu'il n'existe aucune base aujourd'hui pour justifier une telle mesure. Par contre, sur le plan de la communication du gouvernement, aucun étonnement puisqu'il est dans une continuité du discours d'extrême droite à l'égard des associations antiracistes. On ne sait pas ce qu'on nous reproche précisément. Il y a le contexte récent de l'attentat auquel je tiens à préciser que le CCIF exprime sa condamnation la plus totale. Et on nous reprocherait peut-être d'avoir enflammé les choses, entre guillemets, alors que nous n'avons aucun lien dans la communication de ces événements. Là, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une attitude du gouvernement qui vise simplement à restreindre ses libertés, notamment de cette association qui est une association antiraciste, apolitique et religieux.
Jawad Bachar, le président du collectif contre l'islamophobie en France avec Justin Morin.
Et puis reste la question sensible du retour en classe. Après les vacances scolaires, le gouvernement ne veut pas laisser traîner les choses.
Jean-Michel Blanquer a reçu les proviseurs des collèges et des lycées ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale a tout mis sur la table, le plan d'action du gouvernement pour la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint. Objectif, pas d'improvisation et surtout se montrer inflexible avec le respect de la minute de silence qui sera observée. Message reçu par la proviseure Sylvie Persson, secrétaire générale du CFDT.
La consigne ou le mot d'ordre, je ne sais pas comment on peut le qualifier, c'est plutôt de ne rien laisser passer. On sait faire aussi la différence entre ce qui va être de l'ordre de la provocation ce jour-là et qui aura une réponse éducative, y compris disciplinaire derrière. Il n'y a pas, je pense, de réponse unique à donner, mais effectivement, faire confiance aux équipes sur le fait qu'il faut renforcer la vigilance, ne rien lâcher et effectivement répondre à toute forme de provocation, qu'elle soit à haut bruit, j'ai envie de vous dire, ou à bas bruit. Et puis il y a ensuite l'éducation qui doit se poursuivre, rappeler ce qu'est la laïcité, ce qu'elle nous permet de vivre, comment elle nous permet de nous exprimer, revenir sur la liberté et construire et aider à la construction de l'esprit critique de nos élèves.
Sylvie Persson, proviseure et secrétaire générale du SGEN CFDT.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, sur Europe 1, la suite du journal de Christophe Lamarre. Et on est à 15 jours tout pile de la présidentielle aux États-Unis. On va retrouver chaque jour désormais Xavier Yvon pour son journal de campagne.
Et puis, Laurent Voulzy sort un nouveau titre.
Chouette, on adore Laurent Voulzy.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 19h09. Merci à vous d'écouter Europe 1. C'est la suite du journal de Christophe Lamarre. Et J-15, et oui, ça y est, ça se rapproche, la présidentielle aux États-Unis. Et Europe 1 a décidé de vous raconter cette dernière ligne droite. Dans le détail, c'est le journal de campagne de Xavier Yvon.
I'm Joe Biden.
I'm Donald Trump.
And I approve this message.
And I approve this message.
Europe 1 live for the American elections.
Bonjour Xavier Yvon.
Hello, bonsoir à tous.
C'est le premier journal de campagne. Xavier, on va déjà commencer par un état des lieux.
Oui, alors Joe Biden est en tête dans tous les sondages, largement au niveau national, avec plus de 10 points d'avance, confortablement dans les états clés. Selon le site de référence 538, le démocrate a 88% de chances de l'emporter. C'était exactement ce chiffre pour Hillary Clinton en 2016, au même moment. Et justement, je voudrais vous faire écouter une archive pour relativiser tout ça. C'était mon journal de campagne il y a 4 ans, pile 15 jours avant le vote, comme aujourd'hui. Écoutez.
On est maintenant à 2 semaines de l'élection et pour les médias américains, la victoire d'Hillary Clinton semble ne plus faire de doute.
Oui, le tout dernier sondage lui donne 12 points d'avance sur Donald Trump. Le Washington Post estime même que Trump a, je cite, presque zéro chance de gagner. Aucun analyste ne voit comment Donald Trump peut remonter la pente, sauf événement extraordinaire qui ferait basculer la campagne ou si tous les instituts de sondage se trompent lourdement. Voilà, vous connaissez la suite de l'histoire, on va donc rester prudent. Il y a des différences quand même cette année. Les sondeurs disent avoir appris de leurs erreurs et donc être meilleurs. Et les écarts entre Joe Biden et Donald Trump sont constants depuis des mois, ce qui n'était pas le cas avec Hillary Clinton. Dans un email interne ce week-end, la directrice de campagne Biden a dit à ses équipes « Nous pouvons encore perdre ». Et tout à l'heure, dans une conférence au téléphone avec ses troupes, Donald Trump lui a dit « Nous pouvons encore gagner », ça vous résume l'état de la course.
Alors du coup, Xavier, à quoi vont ressembler ces deux dernières semaines de campagne ?
Eh bien, Donald Trump va continuer sa tournée de meeting devant des foules compactes, souvent sans masque. Il en a deux prévues aujourd'hui en Arizona. Joe Biden, lui, va s'en tenir à ces événements plus modestes, pas vraiment de public, de la distance sociale, parfois des drive-in, pour marteler son message. Moi, je prends la pandémie au sérieux et je vous protégerai.
Et on termine avec le son du jour, Xavier.
Oui, alors dans ces meetings one-man show, Donald Trump est souvent en roue libre. Il assène toutes sortes d'arguments parfois surprenants, comme hier dans le Nevada.
If he comes in, the Christmas season will be canceled.
S'il est élu, Joe Biden va faire annuler la saison de Noël. Voilà, c'est cadeau. À demain.
C'est cadeau, effectivement. Donald Trump en roue libre, comme toujours. Merci à vous. C'était l'œil de Xavier Yvon, correspondant d'Europe 1 en direct des États-Unis. Votre journal de campagne que l'on va attendre avec impatience tous les soirs, Xavier, à 19h10.
Un mot de sport, retour de la Ligue des Champions demain soir. PSG Manchester United et Rennes Krasnodar, soirée spéciale Ligue des Champions sur Europe 1 à suivre demain soir, bien sûr.
Et Christophe, on va terminer en musique. On adore ça, avec le retour de Laurent Voulzy.
Oui. Oui, mais un retour sans sa moitié, Alain Souchon. Mais Laurent Voulzy dévoile aujourd'hui un titre inédit avant la sortie d'un best-of en novembre. Et pour cette nouvelle chanson, l'artiste a été inspiré par une légende allemande.
Lorelei, c'est une légende allemande d'une femme qui est sur un rocher. Elle se sent maudite un peu parce que elle a des hommes qui la regardent, tombent instantanément amoureux d'elle, mais ils meurent en même temps. Et moi, je me suis servi du fait que le prénom est beau et qu'elle est sur un... Et à un moment, d'ailleurs, donc cette légende, elle va sur le rocher, elle se regarde dans le Rhin et en fait, elle voit ses yeux et là, elle tombe dans le Rhin et elle meurt. Et je m'adresse à elle en lui demandant « Ne vois-tu rien venir ?» Voilà.
Et nous, ce qu'on voit venir avec grand plaisir, c'est ce nouveau titre inédit de Laurent Voulzy, montage réalisé par Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1. C'était le journal de Christophe Lamarre. Merci Christophe, on vous dit à demain.
À demain.
Et tout de suite, la météo avec vous Anissa Haddadi. Anissa, attention au vent fort apporté par Barbara, c'est ça?
C'est ça exactement, Isabelle. Cette tempête, Barbara, elle arrive du Portugal. Et elle se dirige tout droit vers le golfe de Gascogne, avec dès ce soir en montagne des vents forts. Et ça va concerner les Pyrénées jusqu'au Massif central, donc un bon quart sud-ouest et centre-ouest du pays. Avec demain sur les Cévennes de la pluie dès le début de journée. Le temps change donc assez nettement demain, avec des Hauts-de-France aux Pyrénées sur une partie moitié ouest du pays. Pas mal d'averses et beaucoup de nuages. De l'Alsace au pays niçois sur les frontières de l'Est, là il fait beau. Demain le soleil brille, profitez-en. Ailleurs, le ciel est plutôt mitigé, partagé entre nuages et éclaircies. Les températures, elles sont moins froides demain matin, avec 5 à 16 degrés du Grand Est au Sud-Ouest et 14 à 22 degrés demain après-midi. 15 à Paris, 19 à Lyon, 21 à Marseille et 22 à Biarritz pour la maximale sous le vent.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Vous souhaite une très belle soirée. On vous retrouve donc demain avec le pull et le ciré, mais pas le parapluie,
évidemment,
surtout à cause du vent. 19h15 sur Europe 1, presque. On ouvre comme tous les soirs dans un instant le Club des idées.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Avec d'abord la carte blanche du jour, un peu particulière ce soir avec vous, Philippe Besson, bonsoir.
Bonsoir.
Alors particulière parce que vous avez choisi de nous lire ce soir un texte que vous avez écrit. Ça n'est pas vraiment une carte blanche comme on en a l'habitude, c'est plutôt un témoignage sur ce que vous avez ressenti vendredi dernier après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine.
Absolument. Alors comme des dizaines de milliers de mes compatriotes, je suis allé hier après-midi sur une place de France. Pourtant, je n'ai pas pour habitude de me joindre à des rassemblements, trop casaniers sans doute, trop peu convaincus de l'utilité de ce type de lutte. Mais voilà, j'ai ressenti au plus profond la nécessité de ne pas rester inerte, de faire quelque chose, même quelque chose de dérisoire, car c'est évidemment dérisoire de se tenir debout sur une place quand en face de nous un fou décapite un professeur, quand en face de nous une idéologie nauséabonde tisse sa toile. Quand en face de nous, des kamikazes démontrent que la vie pour eux est sans importance, celle de leurs victimes bien sûr, mais aussi la leur puisqu'ils sont prêts à la perdre au nom de leur funeste cause. Dans la foule, j'ai d'abord vu et entendu la sidération. Même 48 heures après l'horreur, beaucoup refusaient encore d'y croire. Beaucoup continuaient de penser qu'avec la mort de Samuel Paty, on était au-delà de l'intelligible, au-delà du pensable. Beaucoup ne parvenaient pas à envisager pareille barbarie, pareil degré de bestialité et au fond... Cette impossibilité, aussi cruelle soit-elle, disait que eux étaient restés du côté de l'humain. Dans la foule, j'ai vu l'effroi, la terreur à l'idée que quelqu'un ait osé, qu'il ait fomenté son plan macabre, qu'il ait orchestré de s'en vanter, qu'il n'ait pas hésité au moment de porter les coups. Alors je sais ce qu'on dira, nous ne devons pas avoir peur. Les terroristes ont réussi si nous prenons peur. Mais qui serions-nous si nous n'avions pas peur ? Je laisse l'indifférence aux monstres. Je laisse l'insensibilité aux sauvages. Dans la foule, j'ai vu la tristesse. Parce que, pour reprendre les mots de Jean Villard, la mort a frappé haut. Elle nous a volé un être admirable qui avait dédié sa vie à l'émancipation des autres, qui cherchait à donner à des adolescents la faculté de penser par eux-mêmes, de s'élever. Un hussard de la République qui considérait qu'on combat l'obscurantisme avec la connaissance et les inégalités par l'éducation. Un homme doux et respecté. Oui, la mort a frappé haut. Dans la foule, j'ai vu la lassitude, face à une violence qui ne s'arrête jamais, qui ne connaît aucune trêve, qui toujours recommence, qui chaque fois gagne en intensité. L'accablement de devoir constater que lorsque nous pensons être venus à bout de l'hydre, une autre renaît, encore plus sinistre, encore plus insaisissable et peut-être plus tentaculaire. Dans la foule, j'ai vu la colère, parce que l'ennemi est identifié et que nous ne parvenons pas à l'abattre, parce que nous respectons toutes les lois et qu'il n'en respecte aucune, parce que des élus locaux ou des beaux parleurs se sont montrés complaisants, tandis que nos bourreaux, eux, étaient sans pitié, parce que les réseaux sociaux sont devenus en toute impunité l'antichambre des assassins et de leurs complices, parce que nous devons constater que notre goût de la liberté ne fait pas toujours le poids face à une foi dévoyée. Dans la foule, j'ai partagé chacun de ces sentiments, puis j'ai levé les yeux vers le visage en noir et blanc de Samuel Paty, avec la mer en arrière-plan, et j'ai compris que ce visage, brandi, démultiplié, arrimé à nos mémoires désormais, nous accompagnerait pour les combats qui nous attendent, et la colère est devenue une détermination.
Merci beaucoup, merci Philippe Besson pour ce très beau texte, ce très bel hommage très sincère, on l'a senti, à Samuel Paty.
Merci.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et on poursuit dans quelques secondes avec le débat du Club des idées consacré ce soir à ce drame, bien sûr. L'école frappée en plein cœur, les enseignants cibles de fanatiques, la peur, la prise de conscience, l'avenir. Comment éviter qu'un drame comme celui-ci ne se répète ? On en parle dans un tout petit instant sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Bienvenue sur Europe 1 dans ce club des idées. Comment enseigner la liberté d'expression ? Comment l'école peut-elle relever le défi ? En a-t-elle les moyens ? Comment conjurer cette peur qui gagne le corps enseignant ? L'école de la République, on le sait, touchée au cœur, un professeur décapité pour avoir voulu enseigner la liberté de penser. On en parle ce soir avec mes invités que j'accueille. Jérémy Pelletier, directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de la laïcité. Bonsoir.
Bonsoir.
Rodrigo Arenas, vous êtes co-président de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Christine Guimonet, secrétaire générale de l'Association de professeurs d'histoire-géographie. Vous êtes vous-même enseignante à Pontoise, c'est ça ? Bonsoir. L'école de la République, au cœur donc de l'horreur la plus absolue, l'inimaginable, l'insoutenable, l'impensable, a donc eu lieu vendredi dernier. Et après le choc, l'heure des questions. L'école est-elle encore ce sanctuaire théoriquement aseptisé des idéologies totalitaires ? Je vous pose la question ce soir, madame, messieurs. Les profs, après ce drame, pourront-ils continuer à enseigner la liberté d'expression ? Christine Guimonet, vous qui êtes en première ligne, puisque vous êtes vous-même enseignante.
La première chose que je vais dire, c'est qu'on est très atteint depuis vendredi. C'est l'un d'entre nous qui a été assassiné d'une façon absolument épouvantable. L'école n'est plus un sanctuaire depuis longtemps. L'a-t-elle jamais été, d'ailleurs ? Nous occupons de collégiens, de lycéens pour l'enseignement secondaire. Nos collègues du premier degré ont des enfants. On les prend dans leur globalité. Il ne faut pas imaginer que ils ne sont là que pour le cadre scolaire, ils viennent avec leurs souffrances, leurs problèmes familiaux, leurs problèmes psychiques, leurs joies, leurs peines, leurs douleurs, donc leurs croyances. Donc la liberté d'expression, ça va être un continuum en fait d'enseignement avec des niveaux adaptés. Et ça ne devrait même pas faire débat. Ça ne devrait même pas faire débat. La liberté d'expression existe, c'est une conquête dans l'histoire de la France.
Et là, on s'est attaqué au cœur de ce qui avait été mis en place après les attentats du Bataclan, notamment ces fameux cours d'éducation civique et morale.
Mais ça existait déjà avant.
Ça existait déjà.
L'éducation civique a été remise en œuvre par Jean-Pierre Chevènement à partir de 1986. Donc depuis que j'enseigne, j'ai toujours fait de l'éducation civique avec les élèves de collège et de lycée, quel que soit le sigle qu'on a trouvé pour la nommer. Donc au lycée, c'était le CJS, éducation civique, juridique et sociale. Maintenant, ça s'appelle l'EMC.
Ça a simplement changé de nom.
Voilà,
ça
enseignement
déjà.
Moral et civique. Et en fait, Les principes qui nous guident pour travailler avec les élèves, je pense, sont les mêmes. Pour nous, c'est une sorte de boîte à outils pour travailler la citoyenneté. Et la liberté d'expression se trouve dedans.
Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui de consacrer un cours à la liberté d'expression dans un collège de banlieue en présentant des caricatures de Charlie Hebdo ? Je ne sais pas qui veut me répondre, Jérémy Pelletier.
Écoutez, je ne suis pas professeur. Ce qui est certain, c'est que...
Mais vous êtes observateur de tout ça, spécialiste de la laïcité.
Alors, ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce n'est pas nouveau. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années que des professeurs nous font remonter la difficulté qu'ils ont enseigner un certain nombre de disciplines, évidemment notamment la discipline liée à l'histoire, un certain nombre de disciplines aussi liées aux sciences naturelles. Par ailleurs, on se souvient quand même qu'après les attentats, notamment de janvier 2015, un certain nombre de minutes de silence n'avaient pas du tout été respectées. Un certain nombre de classes avaient été troublées après ces attentats. Donc, en fait, ce qu'il s'est passé n'est pas nouveau et la conséquence d'un certain nombre d'actes que justement les professeurs d'une façon générale et les professeurs qui exercent notamment dans les banlieues et dans les quartiers difficiles nous disent depuis des années. Donc une partie de ces professeurs-là sans doute ont cessé d'enseigner un certain nombre de choses. Le professeur qui a été lâchement assassiné avait encore le courage, lui, de faire des cours en présentant justement les caricatures de Charlie Hebdo. Mais combien ne le font pas, combien ne le font plus en raison de la crainte qu'ils ont justement et des conséquences que peuvent avoir justement
vous le faites vous-même encore, Christine Guémonet, vous le feriez maintenant que vous avez...
Des cours sur la caricature, j'en fais régulièrement. Il ne faut pas imaginer qu'on est dans le renoncement. Les contestations de cours ne concernent pas uniquement la banlieue. Enfin, c'est un faux problème.
Mais vous-même, vous avez déjà vécu des situations extrêmement tendues avec éventuellement des menaces, des élèves qui claquent
des menaces, non. Moi, je ne peux pas inventer des incidents qui ne sont pas produits. Il y a des situations qui sont plus ou moins clivantes ou plus ou moins compliquées. Dans les questionnements que vont développer les élèves, il faut toujours démêler ce qui relève de l'incompréhension, de la provocation, de l'ignorance ou d'une idéologie qui est déjà bien ancrée et bien déterminée. Bon, quand un élève me dit dans un cours sur les droits des femmes « Bon, madame, votre cours, ça me fait chier », je lui signale que c'est vulgaire, qu'il a tout à fait le droit d'être dérangé par le travail que je fais avec l'ensemble de la classe, mais qu'il suivra le cours comme tout le monde, parce que le cours est pour l'ensemble de la classe, et que ça ne se discute pas. Bon, après, il peut très bien péter un câble.
Ouais. Rodrigo Arenas, le co-président de la FCPE, la Fédération de parents d'élèves que vous êtes, a dû être extrêmement bouleversé également par ce drame, puisqu'on sait qu'il y a eu un rôle important, sans doute, des parents dans cette dénonciation des faits.
Bien sûr. D'abord, il y a... Je pense qu'il faut reposer aussi les choses. Cette situation n'est pas nouvelle. Rappelez-vous les ABCD de l'égalité. Ce n'était pas qu'un phénomène de banlieue. Ce n'était pas qu'un phénomène religieux. C'est-à-dire des parents qui ont considéré que des enseignants, l'enseignant de leurs enfants, qu'ils côtoyaient tous les jours, allaient enseigner la masturbation à leurs enfants tout nus dans la classe. C'est de ça qu'on parle. Et nous avons été, à la FCPE, moi-même, j'ai été chercher les enfants chez eux en disant « Mais à partir de quand vous êtes devenus débiles ?» Comment est-ce que vous pouvez imaginer deux secondes qu'un enseignant va apprendre la masturbation tout nu à vos enfants, en maternelle, en primaire ? Et la réponse des parents était simple, c'est « on ne sait jamais ». Donc à un moment donné, ce n'est pas un problème moral. Un problème, c'est un problème légal. Et on ne discute pas la loi. Donc un enseignant fait son cours dans la liberté pédagogique comme il l'entend, et aucun parent n'a le droit de venir s'immiscer, sauf s'il veut devenir lui-même enseignant. Et il passe les concours de la fonction publique.
Évidemment. On poursuit ce débat dans un instant, messieurs, dames, sur Europe 1. Ce sera la suite de votre débat du Club des idées. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est ce que disait Nelson Mandela. Est-ce que c'est encore le cas après l'agression sauvage de vendredi soir? On continue d'en parler ce soir avec mes invités sur Europe 1 et je voudrais revenir sur un sujet qu'on a effleuré juste avant la pause. A-t-on donné trop d'importance, trop d'influence aux parents d'élèves dans l'éducation et au nom de quelles compétences? Christine Guémonet, secrétaire générale de l'Association des professeurs d'histoire géographique, quel est votre avis là-dessus?
Alors tout dépend de quoi on parle. Lorsqu'on réfléchit à cette notion de coéducation à qui est cher à Rodrigo Arenas, il faut qu'on puisse travailler main dans la main en allant dans la même direction.
Mais est-ce qu'on n'a pas quand même ouvert la boîte de Pandore en donnant trop de place aux parents?
Mais là, c'est pareil, il faut raison garder. Les parents n'ont pas à s'ingérer dans les pratiques pédagogiques des professeurs.
Mmh. Sauf qu'ils le font.
Contester souvent les programmes scolaires. Et je pense que ce drame doit quand même permettre un tournant. C'est donc un discours qui soit ferme et clair de la part de notre institution, de manière à ce que il ne soit plus possible pour des parents d'élèves de s'ingérer dans nos pratiques pédagogiques, de venir vitupérer dans un établissement parce qu'un professeur a parlé de ci, de ça.
Bon, Rodrigo Arenas, ils sont prêts à l'entendre, ce discours, les parents d'élèves?
Bah déjà, la coéducation, c'est la loi. Ce n'est pas une lubie qui sort dans le cerveau en février de la FCPE. C'est quelque chose qui a été construit parce qu'on considère en France que les parents sont des coéducateurs et avec les enseignants, évidemment, mais qu'on n'a pas le même métier, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, c'est important de dire aux parents qu'il faut qu'ils restent à leur place. Ceci étant, oui, on a renoncé à beaucoup de choses. On a laissé faire beaucoup de choses. Et moi, je suis le premier à le reconnaître et le premier à le combattre aussi. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants, par exemple, qui en période de Ramadan parlent de ça toute la journée à leurs enfants, il faut leur dire aux enfants, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Et les enseignants sont en devoir de faire un signalement. Parce que concrètement, on est en train d'immiscer un fait religieux dans une école publique, laïque, gratuite, obligatoire, qui n'a pas lieu d'être. Donc à un moment donné, il faut savoir avoir le courage de le dire. Et je pense par contre, et je parle sous le contrôle de madame, que les enseignants sont parfois seuls par rapport à ça. C'est-à-dire que quand ils s'autorisent à rappeler la loi à un enfant, ils ont peur de la réaction des parents, alors qu'ils ne doivent pas avoir peur. Et ils doivent savoir que nous, en tout cas, les parents de la FCPE, nous n'avons pas peur. Nous sommes à leur côté pour rappeler, y compris aux parents qui dérapent, le droit et ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc il faut être clair sur ces sujets-là. Quand vous, je sais qu'il y a eu une affiche que nous avons faite sur le droit des mamans accompagnatrices qui portent un foulard à faire sortie scolaire, elles ont le droit de le faire. En revanche, il faut aussi dire à ses parents, et nous le faisons, qu'elles n'ont aucun droit, elles n'ont aucun droit à faire du prosélytisme, et elles n'ont aucun droit non plus à revanter la religion ou devoir convertir les enfants lors d'une sortie scolaire. Donc il faut, quand on rappelle un droit, aussi rappeler les devoirs. On ne peut pas tout faire dans une école publique, et on a une chance extraordinaire dans le cadre de la loi 1905, mais vous le direz mieux que moi certainement, c'est que les parents qui ne veulent pas suivre les règles de la République dans une école publique, laïque, publique et gratuite et obligatoire, ils ont une chance extraordinaire, ils peuvent le faire dans une école privée, confessionnel, mais en tout cas, dans l'école publique, c'est la laïcité, y compris le droit de blasphème, madame, et y compris la liberté d'expression. Et ceux qui contreviennent à cela, ils sont répréhensibles et il faut sanctionner.
Jérémy Pelletier, est-ce que les professeurs sont suffisamment entendus? Est-ce que les dossiers, comme ça, les parents qui viennent s'immiscer de façon beaucoup trop forte dans la vie des enseignants, dans la vie scolaire, sont entendus?
Alors, on peut prendre un exemple. Qui est l'exemple des atteintes à la laïcité. Par exemple, Jean-Michel Blanquer, la semaine dernière, justement 3 ou 4 jours avant l'attentat, avait présenté les chiffres d'atteintes à la laïcité pour l'année 2019. Ils étaient autour de 900, si ma mémoire est bonne. Une grande partie de ces atteintes à la laïcité étaient du fait des parents. Justement, n'étaient pas forcément du fait des élèves, étaient du fait des parents. Mais tout le personnel éducatif, les professeurs qui travaillent dans le cadre de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et qui connaissent bien cette question, étaient unanimes pour dire que ces chiffres ne correspondaient sans doute pas, évidemment, à la réalité, parce qu'une grande partie des professeurs, par crainte de ce que cela va signifier sur leur carrière, par crainte de ce que cela va signifier sur l'image que leur administration a, par crainte de ce que cela va signifier sur l'organisation de leurs cours, taisent tout cela, ne le disent pas. Est-ce qu'il y a un sujet...
C'est la fameuse politique de parapluie, on évite d'en parler, on règle ça entre nous.
Absolument,
et on ne fait pas forcément remonter.
Vous vous souvenez du hashtag pas de vague, vous savez, qui avait suscité la polémique, qui avait fait remonter un certain nombre de témoignages de la part des professeurs. Un certain nombre d'administrations et de chefs d'établissement jouent excessivement bien le jeu, et a priori, d'ailleurs, ça a été le cas pour le personnel et la proviseur de l'établissement du professeur qui a été lâchement assassiné, mais peut-être qu'un certain nombre de proviseurs ne soutiennent pas justement leurs enseignants quand ils font remonter ce type de difficultés, type d'atteinte à la laïcité.
Qu'est-ce qu'ils doivent faire quand ils reçoivent ce genre de témoignages? Comment est-ce qu'ils peuvent être plus vigilants? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire?
Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? De toute façon, il faut toujours, je crois, informer en tout cas la hiérarchie, mais ça, madame, vous le direz mieux que moi. Il faut évidemment informer la hiérarchie, il faut informer tout ce qui existe aussi autour maintenant du ministère de l'Éducation nationale. Je crois qu'il faut rendre hommage à Jean-Michel Blanquer qui a mis en place ce comité des sages de la laïcité avec un certain nombre de référents valeurs de la République et qui, je crois, eux, sont en capacité maintenant de faire remonter un certain nombre de faits aussi. Mais évidemment, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls et donc, je crois que de toute façon, ça ne peut pas passer sans le soutien de la hiérarchie. Mais
Christine Dimonet, est-ce que les les profs peuvent avoir peur aussi de faire remonter des incidents. On va dire, celle-ci, elle ne sait pas bien gérer sa classe. C'est, ça va être mauvais pour mon avancement si je vais en parler au directeur ou à la directrice.
En fonction de l'établissement, c'est tout à fait... J'ai mon truc qui est rouge.
Allez-y, c'est normal. C'est que vous parlez, que quand vous entend à la radio, c'est tout va bien.
C'est tout à fait possible. Et ce qui peut permettre justement de trouver des solutions aux problèmes, c'est le collectif qu'il y a dans un établissement scolaire, c'est-à-dire les professeurs qui ont charge d'une même classe, une équipe qui enseigne la même matière, et puis l'ensemble des professeurs de l'établissement. Il ne faut pas que les collègues restent isolés. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'à un moment donné, on a rencontré un problème, parce que le problème n'est pas provoqué par le professeur.
Ça ne se fait pas suffisamment.
Non, pas suffisamment. Quand on a travaillé en ZEP ou en REP, on est habitué à s'entraider et à s'épauler.
Typiquement, ce professeur, quand il a fait part de son inquiétude, de ces menaces qu'il avait reçues, est-ce qu'il n'aurait pas pu être raccompagné chez lui pendant quelques temps par un ou deux collègues? On sait que la police est débordée, que c'est toujours très compliqué. Est-ce que ce genre d'initiative pourrait éventuellement être mise en place pour éviter d'autres agressions?
C'est possible. Moi, je ne vais pas commenter ce qui s'est passé dans ce collège de Conflans parce que je ne connais pas le collègue concerné. Connais pas le collège.
Mais c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place peut-être. Mais d'un soutien entre
davantage
collègues.
De solidarité entre collègues, sans porter des jugements sur qui sait faire, qui ne sait pas faire, aider, étayer, et surtout les jeunes collègues qui démarrent dans la carrière et qui parfois ne savent pas trop comment se positionner, avouer qu'ils ont une difficulté. Ça, c'est primordial. Le collectif, c'est vraiment ce qui peut permettre d'avancer. Après, vous avez des problèmes qui peuvent se régler dans le cadre de la classe, sans que ça remonte forcément à un niveau supérieur. Et après, quand il y a quelque chose qui est plus problématique, bon, il faut que l'information remonte et que la situation soit traitée, sans que le professeur soit automatiquement mis en accusation.
On poursuit ce débat dans un tout petit instant, ensemble sur Europe 1, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Après le drame de Conflans-Sainte-Honorine, quel message doit-on faire passer? Je voudrais qu'on revienne sur cette solitude des enseignants qu'on a beaucoup évoquée. Est-ce que c'est une réalité, cette solitude, Christine Guimonet?
En fonction des établissements et des collègues, oui. Oui. Ça peut l'être.
Oui. En tant que parent d'élève, vous avez conscience de ça?
Bien sûr. C'est Rodrigo pour ça qu'on se met à leur côté. Chaque fois qu'on nous fait la demande, on essaye d'accompagner, d'être médiateur aussi dans certaines situations. Quand l'enseignant n'arrive pas à réguler dans le cadre de sa fonction et que son autorité d'ailleurs est remise en question. C'est pour ça que nous pensons, nous, que la formation à la laïcité doit revenir fortement dans la formation initiale des enseignants. Et nous pensons aussi que ça doit aussi s'étendre au périscolaire. Il y a plus de 40% des élèves aujourd'hui qui sont aux 4 jours et demi dans notre pays, et que le périscolaire avec les animateurs de centres de loisirs, ce sont les mêmes enfants. Mmh. Et donc il doit y avoir des ponts entre l'enseignement de l'école publique et l'animateur de centre de loisirs, c'est-à-dire l'encadrant, l'éducateur du centre de loisirs qui accompagne ces enfants-là, parce que c'est le même élève. Et donc on ne peut pas accepter des dérives dans un cas, pas dans l'autre, il faut travailler les mains dans la main. Et le pont dans tout ça, c'est les parents aussi, parce que c'est aussi nos enfants. Et nous, on confie aux enseignants ce qu'il y a de plus cher. Vous savez, moi, je suis d'origine latino-américaine, c'est un secret pour personne aujourd'hui. J'étais très fier quand j'étais élève de citer une partie de ma culture, Garcia Marquez, Octavio Paz, tous les auteurs latino-américains, mais jamais la religion majoritaire catholique de mon continent. En revanche, je sais qu'il y a énormément d'élèves qui se disent de confession musulmane, dont la seule va dire orgueil, c'est la religion. Mais moi, j'aimerais bien qu'ils parlent des prix Nobel de littérature, comme Naguib Mahfouz, prix Nobel égyptien. J'aimerais bien qu'on leur apprenne ce qu'est leur culture aussi. Et ça fait défaut aujourd'hui dans l'école publique française, parce qu'on a tendance à en parler comme quelque chose d'exotique, mais pas comme quelque chose d'académique. Et je pense que les enseignants d'histoire, madame, peut-être que vous me contrediriez, mais quand on aborde un sujet historique qui concerne une partie du monde dans lequel viennent ces enfants-là, et pas seulement du Maghreb, aussi d'Afrique, aussi d'Inde, aussi d'Australie, de toutes les contrées, c'est une richesse que d'avoir des enfants qui viennent de là. Et c'est une richesse pour eux aussi de faire état à la classe qu'ils ont, s'ils sont dépositaires de cette culture, parce que c'est aussi ça la France. Mais la France, on ne peut pas limiter ces enfants et cette culture aux faits religieux, parce que la religion, c'est quelque chose de réducteur, et malheureusement pour beaucoup d'enfants, c'est la seule chose qu'ils mettent en avant pour être fiers de ce qu'ils sont. Mais ils ne sont
c'est,
pas c'est que ça, et leurs parents ne sont pas que ça.
De vos études relativement récentes, hein, Jérémy Pelletier, les enfants mettent en avant leur culture religieuse.
Absolument. De toute façon, d'une façon générale, il y a un vrai sujet avec la jeune génération. Notamment
plus qu'avec la précédente.
Sur les sujets qui ont malheureusement fait que ce professeur a été assassiné, c'est leur rapport à la liberté d'expression, leur rapport aux caricatures, leur rapport à la liberté de la presse d'une façon générale. Dans l'enquête qu'on a publiée à l'occasion du procès de Charlie Hebdo avec l'IFOP, la Fondation Jaurès et Charlie, quand vous interrogez la population d'une façon générale sur leur soutien à Charlie Hebdo, sur leur soutien au fait que Charlie avait publié les caricatures de 2006, il y a une évolution très positive de la population entre 2006 et aujourd'hui. Globalement, aujourd'hui, la population est majoritairement en soutien de Charlie Hebdo, considère qu'ils ont eu raison de publier en 2006 les caricatures, considère comme excessif le fait qu'on leur ait intenté un procès. Quand vous interrogez les 18-24, mais les 18-24 considèrent que la publication des caricatures était une faute en 2006, considère qu'il était normal que des organisations islamiques intentent un procès vis-à-vis de Charlie Hebdo, considère que la population qui s'est sentie offensée avait raison de se sentir offensée. Et donc, je crois qu'évidemment, il y a un vrai sujet avec la jeune génération d'une façon générale sur ces sujets-là. Et quand vous regardez, par ailleurs, la jeune génération qui se dit de confession musulmane, honnêtement, c'est dramatique. Sur ces sujets-là, c'est dramatique. Donc, je ne crois pas du tout, moi, au fait que c'est par le fait de remettre de la culture qui serait la culture de leur pays potentiellement d'origine, etc., que ça va résoudre le problème, parce que je pense qu'il y a un vrai sujet vis-à-vis de cette question-là, et qu'à force d'avoir fait rentrer les croyances, à force d'avoir été tolérant dans
mais
la façon dont les élèves réagissent, etc.,
chose,
etc.,
vous étalez votre vision du monde, monsieur.
Qui a raté quelque chose, l'école ou les parents?
Ah, mais je crois qu'une partie de l'école a raté. Je pense que une partie personnes qui étaient censées défendre les professeurs il y a de cela 10 ans, 20 ans, on fait beaucoup trop rentrer la société dans l'école. On dit beaucoup trop aux enseignants, vous savez, si l'élève fait part de ses convictions, fait part de ses croyances, attention, ne le heurtez pas. Attention, parce qu'il va se sentir offensé. Mais en fait, tout ça crée quoi? Crée la génération j'ai le droit, crée la génération j'ai raison, et donc honnêtement, casse le rapport d'autorité que les professeurs ont avec les enfants, et je trouve ça dramatique.
Rodrigo Arenas.
Je trouve ça très curieux d'entendre qu'on est en train de casser l'histoire universaliste de l'école publique française. Je trouve ça très surprenant, mais plus surprise, ce que je dis, c'est au programme scolaire. Ce que je dis d'aborder les cultures universelles de la planète, c'est au programme scolaire. En histoire, en littérature, y compris en sciences naturelles, tout ça fait partie de notre patrimoine. Donc, apprenons-le, c'est une richesse. C'est une richesse que nous avons des enfants qui viennent de tous les pays du monde, justement parce que, ne serait-ce qu'en matière de diplomatie, vous avez 6 langues qui sont les langues de la diplomatie, dont le chinois, dont l'arabe, etc. Enseignons-le. Mais ça fera des très bons diplomates. Donc je ne vois pas où est la contradiction.
Maintenant,
c'est une partie de la réponse. Il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses.
C'est un combat culturel, c'est pas un combat académique. C'est un combat culturel.
Par exemple, je trouve qu'on n'enseigne pas suffisamment les cultures régionales françaises. Et c'est un tort. Parce que la France, ce n'est pas que Paris. Et
Christine Guimonet, je vais vous donner deux exemples. On avait travaillé avec une classe, parce que c'est important de développer leur champ lexical, parce qu'on a des élèves qui arrivent du collège avec parfois une boîte à vocabulaire qui est quand même trop réduite. Donc on a travaillé sur les mots de l'Orient et de la Méditerranée, donc avec une sorte de jeux et de rébus, donc pour les mots persans, les mots arabes et les mots turcs. À un moment donné, il fallait reconnaître donc une miniature représentant Avicenne, donc je leur ai donné le mot donc francisé et puis le mot persan et puis ensuite arabisé. Et un élève de la classe a proposé de nous montrer comment est-ce qu'on écrivait Avicenne en arabe. Donc je lui ai tendu le feutre, il est allé le faire au tableau, j'ai trouvé ça très bien. Quand après, quand on travaille sur les libertés et les droits, la liberté de conscience, et que des élèves parlent des offenses qui sont faites à la religion, donc la religion n'est pas une entité, c'est pas une personne, il faut leur expliquer que les gens ont le droit d'avoir une sensibilité. Bon. Mais qu'on ne doit pas en permanence tout considérer par rapport à sa sensibilité personnelle, ethnique et religieuse, et que travailler en classe, faire de l'histoire, et pas uniquement que de l'histoire, c'est se décentrer. C'est considérer autrui, et pas uniquement son nombril. Et donc, quand ils me parlent de blasphème, je leur explique très tranquillement que le blasphème, ça n'existe pas, et que ça n'est pas une infraction pénale, et ça n'existe pas en droit français. Oui, et l'histoire nous fournit des ressources, et en remontant dans le passé, on travaille sur le chevalier de la barre, et là, ils comprennent ce que ça veut dire le blasphème dans une société d'ancien régime.
On a encore une minute devant nous, je voudrais faire un tour de table très rapide. Quel message doit-on faire passer dans les classes, à la rentrée, après les vacances de la Toussaint? Ça s'annonce capital, ça s'annonce très sensible, cette rentrée.
C'est très simple, qu'un de nos collègues est mort dans sa mission d'éducation.
et que la liberté d'expression en France, ça n'est pas un débat, c'est un principe, ça ne se discute pas.
Rodrigo Arenas.
Je suis parfaitement en face. D'ailleurs, nous avons suggéré à Jean-Michel Blanquer que pour la rentrée de la Toussaint, les enseignants parlent avec leur métier de ce qui s'est passé. Il faut mettre des mots sur tout ce qui se dit. On ne peut pas passer ça à l'oubli. Et nous invitons d'ailleurs les chefs d'établissement, évidemment, sous leur contrôle, parce que c'est leur autorité, c'est leur fonction. Ils sont chefs d'établissement, ça veut dire ce que ça veut dire, aux directeurs et directrices d'école, que s'ils font des commémorations, par exemple une minute de silence dans les cours, etc., qu'ils invitent les parents. C'est important que les parents se joignent à leurs enfants pour dire à leurs enfants « Nous sommes aux côtés des enseignants et nous sommes avec vous aujourd'hui et demain et toujours. »
Jérémy Pelletier, un cadre national.
Que moi, le message principal, c'est que l'école n'est pas le lieu des croyances, n'est pas le lieu des débats autour des croyances, que c'est le lieu de la raison. C'est bien pour ça qu'il y a une séparation des espaces et que l'école est un espace laïque et la croyance n'a rien à faire à l'école.
Merci infiniment, en tout cas, à tous les trois d'avoir été à mes côtés ce soir dans le Club des idées d'Europe 1 pour évoquer cette question clé et très très sensible de l'école.
Europe 1, Isabelle Millet.
On va poursuivre le Club des idées dans un tout petit instant. On va sur Europe 1 vous raconter. On va aller vous savoir. On a l'habitude de remonter dans les archives. Restez avec nous.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
Et on est toujours ensemble sur Europe 1 et dans le Club des idées, on va maintenant plonger, comme chaque soir, dans les archives d'Europe 1. 3 minutes pour comprendre, pour éclairer l'actualité, ça s'appelle Le Jour Où.
On essaiera un jour de faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Europe 1.
Bonsoir Caroline Baudry.
Bonsoir.
C'était il y a plus de 30 ans, le jour où la France s'est divisée sur le port du foulard à l'école, rentrée 1989. Nous sommes à Creil dans l'Oise, le jour donc où trois jeunes filles sont exclues temporairement de leur collège car elles refusent d'ôter leur foulard en classe.
Oui, Fatima, Leïla et Samira, elles sont élèves au collège Gabriel Avez de Creil dans l'Oise. Musulmanes pratiquantes, elles portent un foulard depuis un an. Il recouvre leur front et noué sur le menton. Mais le 18 septembre 1989, les trois jeunes filles sont reconduites chez elles par un enseignant. Au nom de la laïcité, elles n'entreront pas dans le collège tant qu'elles n'enlèveront pas leur foulard en classe. Pour le père de Samira, c'est l'incompréhension. Il tient à ce que ses filles portent le voile à l'école. Écoutez sa réaction le 5 octobre 1989 auprès de Brigitte Benkemoun, journaliste à Europe 1.
Vous voulez porter, je ne sais pas, un chapeau, vous êtes libre. À mon avis, c'est un peu le racisme. C'est des gamines de 14 ans, qu'est-ce qu'ils connaissent de la politique? C'est lui qui fait la politique.
Rapidement, le ministre de l'Éducation, Lionel Jospin, s'exprime. Il appelle au dialogue entre les enseignants et les familles et redonne une définition de la laïcité.
Je crois qu'il faut veiller à deux principes. D'abord, veiller à la laïcité de l'école, où on n'affiche pas de façon spectaculaire, ostentatoire, les signes de son appartenance religieuse. Mais il faut veiller aussi à un autre principe. L'école est faite pour accueillir les enfants, pas pour les exclure.
Et c'est le début de l'affaire des foulards de Creil et d'un débat national enflammé. Le port du voile musulman à l'école est-il compatible avec le principe de laïcité?
Et cette question, Caroline, elle agite la presse, elle déchaîne les passions pendant de longues semaines.
Hein. Oui, l'affaire donne lieu à une avalanche de réactions. 500 articles dans la presse en moins de 2 mois. Radio et télévision en boucle sur l'affaire. Au collège de Creil, chacun reste crispé sur ses positions. Alors le 19 octobre, les trois adolescentes ne vont toujours pas en classe. Cheikh Adam, recteur de la mosquée de Paris, se dit indigné. Et quand les journalistes lui demandent quelle est la signification de ce voile, voici sa réponse.
C'est peut-être une réaction à certaines tenues qui dépassent la décence.
Mais est-ce que c'est du prosélytisme religieux ou non?
Non, pas du tout. Il y a beaucoup de bons musulmans qui n'ont absolument rien sur la tête. Une jeune fille demande à ce que ses cheveux soient couverts. Je crois que c'est son droit le plus absolu.
Mais dans la classe politique, Caroline, la polémique enfle. Les critiques s'abattent notamment sur le ministre de l'Éducation.
Oui, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, il est accusé de laxisme. Une cinquantaine de députés socialistes lui adressent un courrier de protestation. Et au Front National, Bruno Maigret, alors député européen, prône lui un discours anti-immigration.
Dans un premier temps, les personnes étrangères se sont installées en France. Et maintenant, c'est leur culture, leur civilisation, leur religion qui s'installe dans notre pays. C'est l'affaire des mosquées, c'est l'affaire du tchador. Et prenons garde.
Lionel Jospin, ministre de l'Éducation, n'entre pas dans le débat idéologique. Il saisit le Conseil d'État et appelle à l'apaisement.
Il ne faut pas avoir un esprit simpliste ou schématique. Il faut avoir le sens de la nuance et il faut rester humain et de bon sens. Donc je ne me sens pas du tout coincé dans ces affaires, mais je ne veux pas imposer des règles rigides et uniformes. Je ne crois pas que dans ces matières, il faille des règles absolument uniformes.
Le Conseil d'État rend son avis le 27 novembre. C'est au chef d'établissement d'agir au cas par cas. Le port de signes religieux n'est pas incompatible avec le principe de laïcité. La jurisprudence vaudra jusqu'à la loi de 2004 interdisant le port de signes religieux à l'école.
C'était donc le jour où. Merci beaucoup Caroline Baudry.
Europe 1, Isabelle Millet.
Et dans un instant sur Europe 1, ce moment que vous attendez tous parce que c'est la meilleure et parce que pendant 2 heures, on tente de s'évader un peu de ce monde de fou. Bonsoir Émilie Mazoyer.
Mais comme je vous aime, Isabelle Millet.
Quel programme ce soir, Émilie?
Alors ce soir, on reçoit une journaliste française qu'on peut lire notamment régulièrement chez Les Inrocks, chez Rolling Stone ou chez Vanity Fair. Elle s'appelle Sophie Rosemont. Elle a écrit un bouquin fabuleux qui s'appelle Black Power, l'avènement de la pop culture noire américaine. Et ça tombe drôlement bien puisque la semaine dernière, Stevie Wonder, qui est en couverture de son bouquin, a sorti 2 chansons inédites. In 70 ans, très en forme, hein. Pas Sophie Rosemont, Stevie Wonder.
On adore, ça s'annonce bien cette soirée, Émilie.
Ça va être super, merci Isabelle.
Je vous retrouve demain, dès 18h. Et d'ici là, on écoute Le Monde Changer, bien sûr.